Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle de l'inceste sous l'angle transgénérationnel, en essayant d'apporter des éléments de réponse à deux questions. Quelle est la dynamique familiale dans laquelle s'inscrit l'inceste qui favorise sa répétition de génération en génération ? Et quelles sont ses conséquences pour les générations suivantes ? Je n'aborderai donc pas le sujet de l'inceste dans son ensemble, il faudrait plusieurs heures, même plusieurs jours pour le faire, et j'ai besoin de vous préciser que j'ai été obligée d'utiliser des raccourcis pour aborder certaines notions. L'idée étant comme d'habitude de vous donner des pistes de réflexion, des fils à tirer pour mieux comprendre les aspects transgénérationnels de l'inceste, mais pas de faire le tour de la question. La question de la définition de l'inceste est en elle-même très controversée. Choisir une définition, c'est déjà avoir un parti pris sur le sujet. De quelle nature de liens familiaux parle-t-on ? De quel type d'acte ? Jusqu'à quel âge ? La majorité des auteurs, psychothérapeutes, sociologues, anthropologues, qui ont écrit sur le sujet ont consacré au moins une dizaine de pages sur les contours de la définition de l'inceste. Difficile d'en faire un résumé ici. Certains désignent l'inceste comme toute situation d'abus sexuel intrafamilial, en précisant que le terme d'abus sexuel, toujours très controversé, désigne toute forme de violence sexuelle, viol, attouchement, exhibitionnisme, voyeurisme, commis par violence, manipulation ou séduction. D'autres préfèrent utiliser le terme d'interaction sexuelle dans le cadre intrafamilial, recouvrant ainsi également le climat incestuel et les soins corporels inappropriés donnés par un parent à un enfant. Dans tous les cas, par cadre intrafamilial, on entend famille au sens du lien qui unit, pas exclusivement au niveau du sang. L'inceste, sujet tabou par excellence, dont personne ne veut entendre parler mais qui est partout. D'après une récente enquête Ipsos, un Français sur 10 se déclare victime d'inceste, ce qui en fait un véritable fléau de notre société. Les incesteurs sont les pères, les oncles, les cousins, les frères, les grands-pères, les beaux-pères, mais aussi parfois, même si c'est statistiquement beaucoup plus rare, les mères, les tantes, les cousines, les sœurs, les grands-mères, les belles-mères. Les victimes sont majoritairement des filles, mais aussi des garçons. Et l'inceste peut avoir lieu dans n'importe quelle famille, quel que soit le milieu social d'origine. Il me semble important de rappeler en préambule qu'un enfant ne veut jamais avoir une relation sexuelle avec son parent, ses grands-parents ou ses frères et sœurs plus âgés. Quand l'adulte ou l'aîné propose une relation sexuelle en réponse à une demande d'affection de l'enfant, il y a ce que le psychanalyste Salvador Ferenczi a appelé « confusion de langage entre l'adulte et l'enfant ». À noter aussi que pour la majorité des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, il n'existe pas de jeu de touche-pipi entre enfants qui n'ont pas le même âge, à partir du moment où la moindre différence d'âge crée une relation de domination. Pour ma part, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont été victimes de viols ou d'attouchements par force ou manipulation par un frère aîné sont des femmes qui souffrent dans leur corps, dans leur sexualité et dans leurs relations conjugales. Un point tout d'abord sur le contexte sociétal dans lequel s'inscrit l'inceste, qui au passage est une particularité humaine puisqu'il n'existe pas chez les animaux. L'inceste a bien sûr toujours existé, on en retrouve d'ailleurs les traces dans les écrits de certains philosophes grecs. Mais si on s'intéresse à la période plus récente, Freud avait bien remarqué qu'un grand nombre de ses patientes étaient victimes d'inceste, mais il avait finalement choisi de dire qu'il s'agissait de simples fantasmes des filles envers leur père. Et quand on sait qu'il a lui-même reconnu, en privé, que son père imposait des fellations à ses frères et sœurs, on comprend aisément les forces inconscientes qui l'ont poussé à se diriger vers sa théorie du fantasme. Pour bien comprendre le contexte récent, il faut aussi se souvenir que dans les années 70-80 a émergé un mouvement en faveur des relations sexuelles entre adultes et adolescents, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une tribune dans Libération, écrite par Gabriel Matzneff, signée par de grands intellectuels et artistes français, y compris des femmes comme Françoise Dolto et Simone de Beauvoir. Tribune qu'on peut considérer comme véritable porte ouverte à l'éducation sexuelle des adolescents par leurs aînés. Ce courant, en faveur de l'éphébophilie, la préférence sexuelle d'un adulte pour un adolescent, voire même de la pédophilie pour certains, va se poursuivre jusqu'au début des années 90, comme en témoigne le succès des livres de Gabriel Matzneff, encore lui, dans lequel il décrit ses relations avec des jeunes filles de 14-15 ans, et pour lequel il est reçu avec tous les égards dans l'émission Apostrophe. Regardez l'émission sur YouTube et surtout lisez à ce sujet le livre Le consentement de Vanessa Springora, c'est édifiant. Ces dernières années, le voile sur l'inceste s'est un peu levé, notamment avec le film Les Chatouilles d'Andrea Pescon en 2018, puis dans la foulée du mouvement MeToo avec le mouvement MeToo Inceste de janvier 2021, et la forte médiatisation de plusieurs livres sur le sujet, comme celui de Camille Kouchner, et le podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Pour l'anthropologue Dorothée Ducy, qui a publié le résultat de ses recherches sur l'inceste dans l'ouvrage Le berceau des dominations, si le silence de la société autour de l'inceste est resté si fort, alors que l'inceste est partout, c'est qu'il est le reflet de ce qui se passe au cœur même des familles, où les incesteurs exercent leur domination sur un ou plusieurs membres de la famille, sous couvert du silence de tous. Plus précisément, elle voit dans l'inceste un outil d'écrasement appris dès l'enfance, qui est répliqué au niveau de la société entière dans un mouvement ascendant, tout autant qu'une manifestation de la société patriarcale dans laquelle nous vivons, qui autorise la domination des forts sur les faibles, qui autorise les aînés à profiter des cadets, les pères à se servir chez leurs filles, les oncles chez leurs nièces. Pour le dire autrement, l'inceste au sein des familles alimente les rapports de domination dans la société, qui elle-même, par son modèle patriarcal, favorise les rapports de domination au sein des familles. Pour revenir à ce qui se passe au sein des familles, à la dynamique familiale, le constat des professionnels à ce sujet est unanime. Le terreau sur lequel se développe et se perpétue l'inceste dans une famille est le silence. Le silence des victimes, tout d'abord, qui se taisent pour de multiples raisons. L'amnésie infantile, à laquelle s'ajoute parfois une amnésie traumatique. La peur de l'enfant de perdre l'amour du parent. Le sentiment de culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal. Certaines petites victimes se taisent aussi parce qu'en l'absence de comparaison avec d'autres familles, elles pensent que c'est normal, surtout si les membres de la famille semblent voir ce qui se passe mais ne rien trouver à redire. Ou encore parce qu'on leur a demandé de se taire, c'est notre petit secret, qu'on les a menacées de représailles, parce qu'elles n'ont pas le vocabulaire pour expliquer ce qu'on leur a fait, ou parce que personne n'a voulu les entendre quand elles ont essayé de dire quelque chose, ou encore que les faits ont été minimisés par l'entourage. Souvent, les victimes continuent de se taire encore, bien des années plus tard, parce qu'elles ont totalement intégré la loi du silence, parce qu'elles ont honte, ou pour protéger, par exemple, leur mère qui risquerait de s'effondrer en apprenant que son conjoint a violé sa fille. La loyauté familiale favorise le silence, qui permet aux incesteurs de poursuivre leurs crimes, et c'est ainsi, par exemple, que le père non dénoncé devient un grand-père, incesteur de ses petites filles et de ses petits-fils. Le silence de certaines mères est particulièrement frappant dans les histoires d'inceste. Difficile de donner une explication unique à cette absence de réaction. Certaines disent qu'elles n'ont pas vu, et si c'est peut-être possible pour un abus n'ayant eu lieu qu'une seule fois et ou en leur absence, c'est complètement incompréhensible pour les enfants victimes de viols répétés par leur père le soir dans leur lit. Comment est-il possible de ne pas voir, de ne pas entendre? Souvent, mais pas toujours, elles ont été elles-mêmes victimes et sont soumises à la loi du silence depuis leur propre enfance. À force de tenter d'oublier pendant toutes ces années, de faire comme si ça n'a jamais existé, l'inceste est devenu pour elles de l'ordre de l'impensable. Elles sont en permanence dans le déni et ne sont pas capables de protéger leur enfant. D'autres mères en situation de grande fragilité en raison de leur propre souffrance infantile demandent à l'enfant de se taire lorsqu'elle découvre les faits ou lorsque l'enfant leur révèle, mue par une peur de perdre leur mari, leur foyer, leur sécurité. Certaines mères sont ambivalentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner l'impression de vouloir protéger leur enfant, mais comme en réalité elles sont plus préoccupées par leur propre situation et le qu'en dira-t-on, elles s'efforcent d'étouffer l'affaire. Certaines vont même jusqu'à traiter leur fille de menteuse, comme en témoigne Camille Kouchner dans son livre « La Familia Grande », ou Sophie Chauveau dans La Fabrique des pervers. C'est aussi dans le silence de l'entourage que se perpétue l'inceste. Le plus souvent, personne ne veut remettre en cause l'ordre familial qui autorise officieusement l'inceste, ou se demander comment une telle chose a pu arriver dans la famille sans que personne ne voie rien, c'est-à-dire se poser la question de leur propre complicité. Il est très difficile pour les membres de la famille de reconnaître l'un d'eux comme un agresseur. Ici encore, la loyauté familiale fait le lit de l'inceste. Ce qui fait dire à Dorothée Ducy que le dispositif incestueux est suffisamment fort pour organiser sa propre reconduction. Elle relève que quand le passage à l'acte a lieu, l'inceste est déjà présent un peu partout dans la famille. C'est-à-dire que d'autres enfants de la famille sont déjà ou ont déjà été incestés. Cette reconduction de l'inceste a lieu au sein de la famille, donc, mais c'est aussi souvent une reproduction de génération en génération. Alors comment expliquer que l'inceste se rejoue de génération en génération ? Les situations d'inceste et les histoires familiales qui leur sont liées sont toutes très différentes et particulières. Je simplifie ici, mais la réalité est bien sûr beaucoup plus complexe. Un des premiers facteurs de reconduction des pratiques incestueuses de génération en génération est la reproduction de l'inceste par les victimes elles-mêmes. Dans 30% des cas d'inceste, l'incesteur a lui-même été victime de relations sexuelles incestueuses précoces, mais ce chiffre pourrait être sous-estimé, toujours d'après Dorothée Ducy, puisqu'il n'inclut pas toutes les situations qui ont été qualifiées de jeux sexuels entre enfants, dont on sait maintenant qu'il ne s'agit pas de jeux. Heureusement, toutes les victimes d'inceste ne deviennent pas elles-mêmes incestueuses, mais le fait d'avoir été victime peut déclencher chez certains un passage à l'acte, dès l'enfance ou beaucoup plus tard à l'âge adulte, d'abord parce que le système familial l'autorise, puisqu'on me l'a fait, je peux le faire à d'autres, mais aussi parce que l'inceste provoque un éveil sexuel précoce et une sexualité envahissante et ou perturbée chez les victimes. À noter que pour la psychologue Inès Gauthier, spécialisée en psychocriminologie, le passage à l'acte a souvent lieu à l'âge que l'agresseur avait lui-même lorsqu'il a été agressé. Pour bien comprendre comment le système familial favorise la répétition, il faut avoir en tête que non seulement les enfants qui grandissent dans des familles où il y a l'inceste perçoivent l'érotisation des relations entre les membres de la famille, et je vous renvoie à ce sujet à l'épisode sur les transmissions invisibles, et construisent, au moins partiellement, leur identité en s'identifiant à un parent incesteur, mais aussi que le silence autour des actes incestueux vient montrer que c'est possible, en toute impunité, même si officiellement c'est interdit. Ce qui ne veut pas dire, ici encore, que tous les enfants qui grandissent dans des familles incestueuses deviennent incesteurs, mais plutôt qu'ils ont eu des modèles familiaux défaillants et que le code familial implicite autorise le passage à l'acte. À ce sujet, dans son travail d'enquête, Dorothée Ducy a relevé une répétition des configurations incestueuses impliquant la même paire incesteur-incesté sur plusieurs générations. Par exemple, la situation du frère qui viole sa sœur qui se répète sur plusieurs générations, comme si le mot d'ordre était « dans cette famille, les frères peuvent imposer des relations sexuelles à leur sœur ». Autre facteur de répétition de l'inceste, les femmes ayant subi l'inceste peuvent avoir des difficultés à s'orienter vers des personnes bonnes pour elles, ce qui favorise la reconduction des violences sexuelles dans leur propre vie. Pour le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier, les personnes ayant subi des atteintes sexuelles précoces risquent de voir cette situation se répéter plusieurs fois dans leur vie, rappelant, à l'instar de la psychiatre et neurologue Muriel Salmona, qu'un enfant qui a appris à se soumettre est malheureusement formaté pour se soumettre plus tard dans sa vie. Il arrive souvent que ces femmes prennent pour conjoint des hommes dominants, parfois violents, physiquement ou moralement, qui eux-mêmes deviennent des incesteurs de leurs propres enfants. Enfin, pour expliquer la répétition des schémas incestueux de génération en génération, il existe aussi dans certaines familles ce que le psychanalyste Paul Racamier a appelé un climat incestuel, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, de comportements qui rendent les frontières de l'intimité complètement floues au sein de la famille. C'est un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste, nous dit-il. Ce climat incestuel est souvent induit par l'inceste dans les générations précédentes. C'est le cas par exemple lorsque les parents ont l'habitude de se promener nus devant leurs enfants, lorsque les adultes de la famille embrassent les enfants sur la bouche, lorsque la salle de bain ne ferme pas à clé et que chacun peut y rentrer quand l'autre prend sa douche, lorsque les bains sont pris en commun jusqu'à un âge avancé, lorsque les parents tiennent des propos obscènes devant leurs enfants, laissent traîner des revues pornographiques, ou lorsque les enfants dorment dans le lit de leurs parents jusqu'à un âge avancé. Tout ça sur fond de « nous ne nous séparerons jamais ». Il n'y a pas de passage à l'acte incestueux, mais cette absence d'intimité et cette confusion des places de chacun est un terreau fertile pour un passage à l'acte dans les générations suivantes. Et ce climat peut avoir des conséquences graves sur la construction psychique des enfants. Au-delà du drame de la répétition, quelles sont les répercussions de l'inceste pour les générations suivantes? Pour Bruno Clavier, l'inceste dans une famille est un véritable tremblement de terre qui provoque une onde de choc sur plusieurs générations. Dans les familles où l'inceste est tu, il règne une loi du silence, un interdit de parler, de dénoncer, qui se transmet de génération en génération, dont la première conséquence est de favoriser sa répétition, on l'a vu, mais qui s'étend à tous les domaines de la vie. Les enfants qui ne dénoncent pas leur agresseur familial ne parlent pas non plus, par exemple, des violences qu'ils subissent à l'école. Devenus adultes, ils ne dénonceront pas non plus les violences physiques ou morales dont ils sont victimes. Leurs propres enfants grandissent dans cette injonction au silence, et même lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes, ils s'interdisent non seulement de dire, dénoncer leurs propres souffrances, mais aussi plus largement, ils s'interdisent de parler, de peur de dire quelque chose qui pourrait blesser l'autre, et souffrent souvent d'une incapacité à dire non. Charlotte Pilowski, dont la mère a été victime d'inceste, évoque sa peur de blesser les autres en parlant. « J'ai peur de tout saccager par la parole », dit-elle. Dans les familles où les enfants ont essayé de parler, mais où personne ne les a crus, peut se transmettre de manière complètement inconsciente la croyance que ce que dit l'enfant n'est pas important, qui perpétue les négligences envers les enfants dans les générations suivantes. J'ai ainsi accompagné plusieurs femmes qui ont eu de graves complications sur des problèmes de santé relativement anodins parce que leur mère ne les avait pas écoutées et pas crues. Elles avaient tout en commun d'avoir une mère victime d'inceste qui avait essayé d'alerter sa famille, mais qui n'avait pas été crue. Les familles dans lesquelles l'inceste a été mis au grand jour, par là où les victimes, sont malheureusement souvent des familles éclatées. Bien souvent, la révélation fait exploser la famille, surtout quand l'agresseur est un ascendant direct. Certains ne voulant pas y croire, pour les raisons que j'ai évoquées, prennent fait et cause pour l'agresseur et rejettent les victimes. C'est donc une double peine, celle d'avoir été victime d'inceste, puis celle d'être exclue de la famille. Reste alors dans l'inconscient familial la croyance que parler, c'est être exclu, qui pose ici encore un très fort interdit de dire pour les générations suivantes, et un sentiment d'injustice qui peut envahir toutes les sphères de la vie des descendants. Reste aussi parfois un sentiment de honte d'appartenir à cette famille, honte d'être du même sang que les prédateurs. Au niveau individuel, pour comprendre les conséquences de l'inceste sur les générations suivantes, il faut commencer par analyser les conséquences pour la personne incestée. Elles sont multiples et variables d'une personne à l'autre, et fortement liées à son vécu et à ses ressentis. Je l'ai dit dans l'épisode précédent et je le redis, il n'y a pas de règle qui dirait « ceci est plus grave que cela », car je rencontre trop souvent des femmes qui minimisent leurs propres souffrances sous prétexte que ce n'était que des attouchements ou que ce n'était que leur oncle. Globalement, les professionnels spécialisés dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles relèvent pour l'inceste les effets suivants à l'âge adulte. Repli sur soi, perte de confiance en l'autre, dégoût de soi, de son corps, perte d'estime de soi, hyper-contrôle et hyper-vigilance, mise en place de conduites dissociantes pour échapper à la mémoire traumatique, scarification ou automutilation, conduite de mise en danger et tentative de suicide. Dorothée Ducy note à ce sujet une surreprésentation des morts prématurées dans les familles incestueuses. Des addictions, des actes de violence envers autrui ou envers les animaux. On trouve aussi parmi les effets de l'inceste des troubles sexuels, un dégoût de la sexualité ou une hypersexualisation, avec parfois une multiplication des partenaires sexuels, un sentiment permanent de honte et de culpabilité, des angoisses de mort, des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles alimentaires et des troubles du sommeil, de la dépression, une peur de l'intrusion qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, et des symptômes physiques dont peuvent faire partie le surpoids, les problèmes de thyroïde, la fibromyalgie, les problèmes de peau, les infections urinaires à répétition, les troubles digestifs. Les études montrent que les effets de l'inceste sur la santé mentale et physique sont plus graves que dans le cas de violence sexuelle de la part d'un étranger. Au traumatisme de la violence sexuelle s'ajoute un traumatisme du lien. À noter que l'amnésie traumatique et ou infantile n'empêche pas les conséquences de l'inceste. Les victimes ne savent pas qu'elles ont été incestées et pourtant leur vie psychique, leurs affects, leurs comportements sont impactés. Quand on comprend que l'inceste affecte la vie sexuelle, la santé mentale, la vie sociale, la vie familiale et la santé physique, on mesure toutes les conséquences de l'inceste sur les enfants des victimes. Grandir avec un parent victime d'inceste, c'est grandir avec un parent blessé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, avec de manière caricaturale aux deux extrêmes, soit un parent violent qui déchargera sa colère sur l'enfant et en fera sa victime, soit un parent effondré qu'il faudra réparer, soigner, au risque de devenir le parent de son propre parent. Bien entendu, entre ces deux extrêmes se trouve une infinie variabilité de situation, en fonction du contexte, des ressources de chacun, des liens créés, de la résilience des parents. Par les phénomènes d'identification, de projection, de transmission de croyances, on retrouve souvent chez ces enfants une dévalorisation de soi, un lien perturbé au corps, une difficulté à exprimer ses émotions, à faire confiance à ce qu'on ressent, une peur de l'autre, du masculin, une peur ou un rejet de l'autorité qui impacte toutes les sphères de la vie sociale, parfois sur plusieurs générations. Quant à l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui se transmet de manière invisible de génération en génération, les mémoires d'inceste subies par les femmes et les hommes des générations précédentes créent des fantômes au sens psychanalytique du terme, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les secrets de famille. C'est-à-dire des charges émotionnelles qui se transmettent inconsciemment de génération en génération, principalement des émotions de honte, de culpabilité, de peur, de colère, qui peuvent se manifester à travers de multiples symptômes. Des cauchemars, une difficulté à vivre sa féminité, une honte sans motif, une colère permanente sans objet, des phobies autour de la sexualité ou toute autre phobie, des troubles de la sexualité, des obsessions, la peur de l'intrusion non expliquée par leur propre vécu, des angoisses inexpliquées ou encore la peur d'agresser sexuellement un enfant. J'ai ainsi accompagné une femme qui avait honte d'elle-même en permanence. Elle se souvenait que dès sa petite enfance, dans la cour de récréation, elle était envahie par ce sentiment de honte, complètement inexpliqué, jusqu'à ce que sa mère lui révèle qu'elle avait été violée à plusieurs reprises dans son enfance par un de ses oncles. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, il est souvent délicat de savoir ce qui relève d'un aspect transgénérationnel de l'inceste ou ce qui relève d'une violence vécue par la personne elle-même, compte tenu des phénomènes d'amnésie traumatique qui concernent 6 enfants sur 10 victimes de violences sexuelles. Dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents », le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier explique, comme l'avait déjà fait Françoise Dolto, que les symptômes des enfants sont l'expression de l'histoire de leurs parents. Les enfants dont les parents ont été victimes d'inceste peuvent souffrir de cauchemars, de phobies, de compulsions à la masturbation, d'anorexie ou de symptômes physiques inexpliqués médicalement comme l'énurésie ou la constipation chronique. Symptômes qui disparaissent quand des mots sont posés sur les agressions sexuelles dont ont été victimes leurs parents. La meilleure façon de protéger les enfants des effets transgénérationnels de l'inceste et de sa répétition est de leur en parler après avoir soi-même réalisé un travail thérapeutique. Si à l'écoute de cet épisode, vous avez reconnu certaines caractéristiques de votre famille, si vous avez l'impression de porter un poids qui ne vous appartient pas, la première chose à faire est de poser la question autour de vous, à votre mère, à votre père, à votre tante, votre grand-mère, votre grand-père. Cette question que vous n'avez jamais osé poser. Si c'est trop difficile de parler, je vous conseille d'écrire. Et ensuite, de vous faire accompagner si nécessaire. La psychogénéalogie permet de mettre en lumière le mythe familial qui a autorisé l'inceste et sa répétition à travers les générations. Elle peut vous permettre d'identifier et de vous libérer de ce que vous portez qui n'est pas à vous. Et bien que cet épisode soit consacré aux effets transgénérationnels de l'inceste, je ne peux pas exclure que certains ou certaines d'entre vous se soient reconnus dans la description des effets de l'inceste sur les victimes. Si c'est votre cas, je vous invite à consulter au plus vite un psychologue, psychothérapeute ou psychopraticien spécialisé dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles pour poser des mots sur vos ressentis et être accompagné dans votre chemin de guérison. Pour guérir de l'inceste, la toute première étape est de se reconnaître comme victime, ce qui est très difficile quand on a toujours appris à se taire, et de nommer son agresseur. Mettre des mots sur l'inceste est la première condition pour guérir, pour en libérer la famille et les générations suivantes, mais aussi la société tout entière. Encore faut-il que ces mots soient entendus, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui en France. Je vous renvoie à ce sujet au podcast « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski et à l'incontournable ouvrage de Dorothée Ducy, « Le berceau des dominations ». Une chose est sûre, nous avons la responsabilité collective de ne plus laisser se réinstaller le silence de notre société sur l'inceste. Comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif de ce podcast l'ensemble des ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.